Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour parler temps qui court, qui écoute pendant une heure les artistes tous les
soirs. Un tango.
Ce soir, on est ravis de vous recevoir. Parler temps qui court.
Ça y est, plus facilement.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Une table, un ordinateur, une machine musicale, une bouteille de champagne, un paquet de cigarettes, un paquet de mouchoirs, une boîte et des enveloppes, un micro et son pied, une chaise pour s'asseoir derrière la table et un corps, un plateau et un rideau noir, et voilà. Ce sera sans phare, sans accessoires ou presque, car il est question de se dépouiller. Venez, prenez part à la danse et prenez-la même, car c'est le seul trésor que je possède. Dites-vous pour finir, Olivier Dubois, dans votre dernière création, vous vous demandez combien ça coûte. Ou ce qu'il en coûte d'avoir dansé et ou chorégraphié tout ça. Des larmes et du sang, de la sueur et des paillettes. Pendant une heure et demie, appelant trois par trois des spectatrices et des spectateurs qui tirent au hasard des pièces et des musiques, vous dansez sans économie pour voir ce qu'il reste. Peut-être comme une mue, de lézard, de serpent, pour vous dépecer et enfiler une nouvelle pelure. Bonsoir à vous. Olivier Dubois.
Bonsoir.
Le spectacle s'appelle « Pour sortir au jour ». Il est programmé dans le festival Les Singuliers, au 104, à Paris, c'est en ce moment. C'est un lieu dont vous êtes l'artiste associé. Et vous serez le 8 février à la Scala à Paris, le 13 avril à Vanves, dans le festival Ardente. Et puis le 21 mars à Bruges. Et ensuite, c'est une tournée qui est entre l'Europe et le monde et la France.
Oui,
pour ce solo.
Exactement.
Bon. Pour l'instant, on est en janvier et on a encore un petit peu de temps pour se souhaiter des choses pour cette année qui commence. Est-ce que vous avez un vœu pour vous, pour moi, pour les gens que vous voyez
dire,
tous les
soirs? Ah, bah c'est comme vous voulez. Je crois qu'il ne faut pas le dire.
Ah,
non
ok. Ouais, bon,
parce que beaucoup, ouais, j'en ai plein.
Dans le cadre de la radio, du coup, ça fait que. Ou bien
je ne vais pas gâcher un vœu, quoi.
Ouais, okay.
Non, je ne vais pas gâcher un vœu. Il vaut mieux qu'il se réalise quand même. En fait, moi, je mets toutes les chances de mon côté.
Mais sinon, vous en avez beaucoup, pour ne pas parler d'eux exactement.
Oui, ouais, plein.
Pour vous?
Pour moi, évidemment. Pour moi. Avec les autres aussi, parce que je crois qu'on fait toujours un vœu qui nous, quelque part, nous concerne toujours un peu. Sinon, c'est une aide humanitaire.
Ok. Mais... Bon, on se recueille dans le silence pour que ça se réalise.
Exactement.
Très bien, on commence.
Je n'ai fait perfidement de mal à aucun homme. Je n'ai pas rendu malheureux mes proches. Je n'ai pas fait de vilenie dans la demeure de la vérité. Je n'ai pas eu d'accointance avec le mal. Je n'ai pas fait le mal. Je n'ai pas fait, comme chef d'homme, jamais travaillé au-delà de la tâche. Mon nom est parvenu à la barque de suprématie. Mon nom est parvenu aux dignités de la suprématie, à l'abondance et au commandement. Il n'y a par mon fait ni craintif, ni pauvre, ni souffrant, ni malheureux. Je n'ai point fait ce que détestent les dieux. Je n'ai point fait maltraiter l'esclave par son maître. Je n'ai point fait avoir faim. Je n'ai point fait pleurer. Je n'ai point tué. Je n'ai point ordonné de tuer traîtreusement. Je n'ai fait de mensonge à aucun homme. Je n'ai point pillé les provisions des temples. Je n'ai point diminué les substances consacrées aux dieux. Je n'ai enlevé ni les pains, ni les bandelettes des momies. Je n'ai point forniqué.
Je n'ai point commis d'actes honteux avec un prêtre de mon district religieux. Je n'ai ni surfait, ni diminué les approvisionnements. Je n'ai point exercé de pression sur le poids de la balance. Je n'ai point fraudé quant au poids lui-même de la balance. Je n'ai pas éloigné le lait de la bouche du nourrisson. Je n'ai pas fait main basse sur les bestiaux dans leur pâturage. Je n'ai pas pris au filet les oiseaux des dieux. Je n'ai pas pêché de poissons à l'état de cadavre. Je n'ai point repoussé l'eau à l'époque de la crue. Je n'ai pas détourné le cours d'un canal. Je n'ai pas éteint la flamme à son heure. Je n'ai pas fraudé les dieux de leurs offrandes de choix. Je n'ai pas repoussé les bestiaux de la propriété divine. Je n'ai pas fait obstacle à un dieu dans ses sorties en procession. Je suis pur, pur, pur. Je suis pur de la pureté du grand phénix qui est à Héracléopolis.
Ça pourrait paraître très très loin. Mais en fait, c'est un tout petit peu en amont, j'ai l'impression, de cette salle dans laquelle on entre, où vous nous recevez en smoking, bouteille de champagne à la main, cigarette au bec, faisant la bise à celles et ceux que vous connaissez, Olivier Dubois. Un petit peu en amont, il y a le livre des morts égyptiens, auquel Jeanne Alléos et Romain de Bec-de-Lièvre prêtent leur voix, et Pierre Henry, sa musique, puisque c'est un extrait de la musique composée en hommage à ce texte antique. Un peu en amont, parce que vous donnez ce titre, qui est apparemment le titre réel du livre des morts égyptiens, à savoir le livre pour sortir au jour. Et c'est pour sortir au jour le titre de ce solo. Alors on est où exactement quand vous entendez ce texte-là, Olivier Dubois ? On est en dessous, on est avant, à la pièce, on est dans votre tête, on est dans une des lectures qui a précédé la création.
On est... Au départ, on est là, aujourd'hui, présent, et on va disséquer comme des aruspices. C'est-à-dire qu'on va aller fouiller dans mes entrailles. Et donc on va aller fouiller dans ces entrailles qui portent un passé et qui, peut-être, parlent d'un avenir. Vraiment, qui, voilà, d'aller consulter ces entrailles pour connaître un destin, pour connaître un avenir, pour connaître une loi. Voilà.
Et alors la référence à ce livre des morts ?
Ah, elle est vaste. Elle est, en fait, c'est peut-être un peu plus qu'une référence, parce que c'est un livre parce que j'habite entre Paris et le Caire, et c'est un livre que je connais depuis très très longtemps et qui m'a toujours fasciné. Et voilà, comme ça. Et puis j'ai eu la proposition de créer quelque chose. Il y a un artiste qui montait, un jeune festival au Caire, et on sait au combien cette prise de décision est ardue. En Égypte.
Pour ne pas dire courageuse, parfois.
Très, très, très courageuse. Et donc, je lui ai tout de suite dit, mais je suis avec toi, et si je peux aider, en donnant une sorte de, peut-être, de crédit ou quelque chose, je dis, mais avec grand plaisir. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à quoi, comment, et ce texte est revenu très fortement. Et je me suis dit, voilà, je vais être cette momie. Je suis porteur de cette histoire-là. Et comme c'est, parce que la notion de paradis est très 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 différente en Égypte ancienne que la nôtre. C'est un chemin qui doit, alors pas, il y a plusieurs, ce qui pourrait s'apparenter à l'âme, mais il y en a plusieurs. On va prendre celle qui s'appelle Ba, et qui en fait fait une sorte de cycle au quotidien, qui part donc de la momie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on mettait énormément de pierres, d'onguents, de choses très très odorantes et riches. Parce qu'en fait, chaque jour, l'âme sort du corps et fait un cycle qui va vers le ciel, va rencontrer Ra, les dieux, et va redescendre. Et surtout, le pourquoi de ces onguents, de ce corps rempli de ces trésors, je dirais, olfactifs ou de souvenirs. Parce qu'en fait, si jamais l'âme ou ce Ba ne retrouve pas le corps, alors il sera mort. Et du coup, et c'est une chose qui se reproduit chaque jour. Donc l'âme doit sortir au jour, chaque jour.
Et il faut que le corps soit suffisamment appelant, suffisamment reconnaissable.
Absolument.
Pour que l'âme puisse réintégrer.
Et avant la nuit, parce que la nuit, il y a les monstres, il y a les démons. Et par exemple, il y a les confessions. Donc ce que d'ailleurs on a lu, vous avez lu là, il y a ces confessions faites aux dieux, et qui dit, voilà, je suis, au bout du compte, qui dit, en fait, je suis un des vôtres.
Je suis pur,
je suis un des vôtres, et invitez-moi dans la barque. Invitez-moi dans la barque parce que c'est l'endroit où je serai protégé. Et je pourrai retourner à mon corps. Et donc j'ai commencé vraiment sur ces bases-là, ces bases de confession, ces bases de ces trésors que je porterai, qui peuvent être réincarnés, réactivés, et qui permet encore de rejaillir chaque jour et d'être transmises. Ces trésors qu'on peut transmettre comme ça, parce qu'on peut les dévoiler à nouveau. On peut les et ce ne sont que comme il ne reste qu'un cadavre, comme il ne reste qu'un vestige de corps, moi je n'ai à l'intérieur que des vestiges d'œuvres, parce qu'elles ne sont faites que de ma mémoire, et je vais essayer de les réactiver, de les réincarner, mais ça ne sera toujours qu'un vestige aussi somptueux ou peut-être tout inintéressant, anodin. Il doit pourtant encore être vu, encore. Et c'est le seul moyen, c'est d'être, puisqu'on est sur la question du spectacle vivant, c'est qu'il doit pouvoir être apprécié, il doit pouvoir être ressenti. Donc c'est reproduire évidemment une gestuelle, c'est reproduire aussi une ambiance, raconter le contexte où on est. Donc c'est inviter le regardant à se plonger dans un temps donné d'un probablement pas connu, mais qui peut nous parler, et à partir de là, je dirais cette réincarnation, elle se met en place de par l'imaginaire produit chez le regardant, chez le spectateur.
Pour celles qui ont vu, celles et ceux qui ont vu, et évidemment pour toutes celles et ceux qui n'ont pas vu, et c'est ça qui, à mon sens, est peut-être le plus important, le plus intéressant, Olivier Dubois. Mais c'est marrant parce que quand vous parlez d'onguents, de choses précieuses, de trésors, évidemment on pense à tous les trésors que vous déployez un par un, au hasard, les bouts de pièces qui vous restent, mais presque au faste aussi dans lequel... à la fois faste et simplicité dans lequel vous nous accueillez. C'est-à-dire quand même smoking, champagne, cigarettes, bise, je sais pas, on a l'impression d'entrer dans un salon artistique du 19e où les gens comme ça se reconnaissent, se connaissent, se font des mondanités. Est-ce que ça a à voir avec les trésors de la momie ou pas du tout?
Je pense à avoir à l'endroit, parce que c'est pourtant ça, il y a plusieurs couches là-dessus. Il y a évidemment la première impression qui est ce costume, ce champagne, cette invitation, parce que dans un salon, effectivement, ou dans ma chambre, plutôt dans un salon, et où j'invite les gens à venir voir, à venir me parler avec moi. Mais si après on regarde un peu plus dans le détail, alors pour finir avec ça, ce qui serait l'habillage, je dirais, élégant de la momie en soi, qui est extrêmement élégant, extrêmement, je dirais, sophistiqué dans son savoir, dans la maîtrise de ses, voilà, de quel encore une fois onguent pour préserver l'ossature, pour préserver la peau, pour préserver comment on va poser exactement les bandelettes. Enfin voilà, il y a tout ça qui est extrêmement, je dirais, de l'ordre du rituel. Et du rituel est extrêmement défini, clair, parce qu'il y a derrière un savoir presque médical. Et donc, il y a cette approche-là. De l'autre, si on regarde dans le détail, aussi lié avec ces simplicités des momies, c'est que si on regarde ce costume, il vaut pas très cher, en fait. C'est un costume très cheap. Et je me suis, c'est comme si, voilà, je me suis habillé de mes plus beaux atours, j'ai fait de mon mieux. J'ai essayé d'être le plus élégant pour recevoir, comme on accueille chez soi en essayant d'être le plus, à la fois le plus chic, avec ce que l'on a entre les mains. Et que c'est aussi, je trouve que c'est ça, parce qu'il faut savoir, c'est par exemple le procédé de momification, par exemple, on l'imagine souvent associé uniquement au pharaon, ou du moins au dignitaire. Et pas du tout. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se faisait pour tous. Absolument pas tous. Certains n'avaient pas les moyens d'avoir le tombeau. Oui, ça, mais la momification était totalement à pratiquer pour tous. Et je trouvais que c'était aussi ça de dire, mais en fait, voilà, c'est un peu, ce n'est pas une élégance qui rejette, qui vous met à distance, qui est clinquante. C'est quelque chose qui est de l'ordre. Ben, c'est une fête aussi. C'est une cérémonie aussi. Et quand une cérémonie, on arrive et on se prépare un petit peu, on se met en beauté.
D'ailleurs, vous attirez notre attention sur un pantalon qui tombe et pas exactement comme vous vouliez que ça tombe, et que vous êtes allé vous faire ça sur mesure, comme pourrait aussi, je sais pas, n'importe quelle personne rentrant dans un voyage où il a été touriste, être passé dans un marché et s'être fait tailler un costard, et donc finalement assez loin d'un grand luxe, mais assez proche de quelque chose de brillant, de paillettes, de clinquant pour accueillir. Alors une fois que tout le monde est en place, vous aussi, vous vous asseyez derrière cette table où il y a un ordinateur, une boîte, et puis vous nous expliquez ce qui va avoir lieu, ce à quoi vous nous invitez, et l'espèce de dispositif, comme vous le disiez, très ritualisé, qui est lequel?
Une boîte, des enveloppes, des spectateurs.
Voilà. Et oui, c'est tout. C'est très artisanal en soi. C'est là où aussi ça, c'est le contrepoint d'une apparence un peu trop chic. En fait, il y a très 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 peu de choses. Et comme j'essaie de le décrire au départ, c'est que je propose une éventration pour qu'on puisse lire à l'intérieur de ces entrailles. Donc il y a un minimum, je dirais, d'outils, d'ustensiles, de scalpels, pour permettre à chacun d'aller découper et puis d'aller observer. Donc c'est le tout est à l'intérieur de mon ventre.
Et vous faites venir trois par trois des spectateurs, des spectatrices, vous les asseyez. Et c'est ils ou elles qui vont choisir des enveloppes et dicter ce qui va être dansé ensuite. Mais vous le faites venir pas exactement. Vous ne les faites venir pas exactement dans le calme et la langue posée que vous avez là, Olivier Dubois, mais avec une forme de d'extravagance, d'autorité, de presque de drama queen un petit peu en les désignant comme tels. Ça c'est un ton que vous choisissez pour cette sorte de cérémonie là.
Mais c'est moi. C'est aussi moi là, il est voilà, il est la fatigue ou ça, je sais pas. On a plein de bonhommes à l'intérieur hein. Donc celui-ci est, voilà, il y a quand même quelque chose de l'ordre aussi du stand-up, il y a quelque chose de la
performance.
De la performance, et je pense que ça accentue grandement la descente, la plongée dans les abysses comme ça là, ça parce qu'on arrive avec quelque chose qui est effectivement très tenu, il y a une maîtrise, il y a un parler clair, il y a une facilité du plateau comme à la maison.
Ouais, voilà. On entre, on sort. Hein.
Voilà. Et en fait, petit à petit, on va plonger ensemble. Mais c'est très invitant au départ. Alors évidemment, il y a ce parler qui est complètement libre. On fume des clopes, voilà. Et on commence avec quelque chose qui est d'apparence assez qui claque, qui avance, qui va vite. Voilà, qui va vite aussi. Il y a une sorte de, je dirais, de rapidité de l'esprit. Ça circule. Moi, je gesticule. Et puis, petit à petit, on va calmer la bête. Et puis, on va aller en chercher une autre. On va aller chercher les monstres à l'intérieur. Et ça a du coup un relief bien, bien plus large que le petit troubillon de départ.
Incarner, ça veut dire plus que de faire corps, c'est aussi donner chair. Donc la notion de chair a été très importante dans le sens que c'est pas juste revenir à un seul, c'est, même si c'est important de traverser plusieurs figures, traverser plusieurs personnes, personnages, situations, et de rassembler tout ça dans un corps qui c'est le mien, c'est le corps tout seul sur scène, mais c'est important d'aller chercher la chair dans le sens que elle apporte des affections, elle a un tonus variable, modulable, elle est affectée, elle se permet d'être affectée. Donc c'est le désir d'interroger le corps dans sa mutation, dans sa métamorphose constante. C'est pour ça qu'il pourrait devenir un quelconque, dans le sens qu'il n'a aucune identité, aucune forme d'identification que je vais mettre en avant. Et c'est très important de savoir passer d'une chose à l'autre. Alors ça, c'est un propos très, très difficile. Hein. C'est très difficile aussi de quitter l'identité. Donc, moi, une stratégie, c'était de switcher, on va dire, de faire une claque dans chaque image pour passer à une nouvelle figure. Et parfois, c'est dur parce que je n'arrive pas à abandonner les traces de la figure précédente. C'est-à-dire qu'il y a toujours des résidus qui restent. Mais mon désir, c'est à chaque fois de pouvoir bouleverser la figure, de lui donner un choc au point qu'elle puisse vraiment passer à un autre hétérogène. C'est jamais très complètement réussi, mais c'est le désir qui me travaille. C'est la question qui m'intéresse la plus. C'est devenir quelconque comme une permissivité, de pouvoir plonger dans un monde... où on se débarrasse parfois de toutes les implications juridiques ou les implications des modes ou alors du succès ou d'attachement que l'identité elle est censée produire.
Se détacher. Et vous, vous disséquez. Olivier Dubois, on entend Volmir Cordero qui parle d'un spectacle qui s'appelle Ciel. Et il y a des choses qui font écho avec ce solo pour sortir au jour, notamment dans la manière de passer d'une figure à l'autre, de se défaire d'une identité, de faire avec ce qui reste quand vous dites bah, vous allez me donner un titre d'une pièce, un chorégraphe, une date, puis moi je vais voir ce qui reste. Quoi. Ça veut dire que c'est quoi? C'est des...
C'est des résidus en vous, concrètement ?
Des résidus, des... Moi, j'aime l'idée du... des vestiges, comme ça, mais qui... voilà, qui sont comme un tableau, et voilà, il ne resterait que cette partie-là. Alors, et qui pourrait nous raconter le reste. C'est aussi très beau, parce qu'en fait, je trouve que c'est... je danse, voilà, selon les enveloppes qui ont été choisies, donc ce hasard qui décide, je vais danser un instant d'une de ces pièces-là, portée par un des interprètes, souvent on était nombreux. Et donc c'est comme un, voilà, c'est un détail d'un tableau qui, voilà, qu'on regarderait et qui peut-être nous parlerait du tableau dans son, non, intégralité, entièreté, et peut-être même de l'auteur aussi, mais qui est,
voilà, peut-être qui même du de coup, l'histoire de la danse.
Ouais, de l'histoire de la danse, mais aussi qui est libre dans l'interprétation que chacun, ce que je trouve intéressant, c'est que ça laisse libre cours à chacun d'y voir la pièce, peut-être qu'ils probablement n'ont pas vu, mais on a ça, par exemple, par exemple, le Sacre du Printemps, Nijinsky, il ne reste rien, absolument rien. Il reste quatre photos, un petit film qui dure une minute. Et on remonte aujourd'hui des Sacres du Printemps, mais on sait pertinemment que c'est foutaise, c'est rien du tout. Mais on a ce petit détail-là, et ce petit détail-là nous donne encore envie de tenter de s'en rapprocher, d'un souvenir, d'une fascination. Et je trouve que c'est... C'est tout l'enjeu de pour sortir au jour. Et j'aime beaucoup, c'est que c'est une notion de métamorphose où sans arrêt, à chaque enveloppe tirée, avec chaque surprise pour tout le monde, moi le premier, il faut réinventer immédiatement le décorum, le pourquoi, le lieu, le temps, l'état physique, quel rôle, qui est autour de moi, et de complètement se replonger d'abord, parce que je crois que c'est l'imaginaire, c'est qui va produire l'intention, et l'intention va produire l'action. Et donc, à partir du moment où, voilà, ça va très très vite, c'est une fraction de seconde où, paf, absolument l'imaginaire est mobilisé à un endroit qu'on espère, du coup, le plus juste possible, parce que ça, c'est de la sensation restante, qui crée, du coup, l'intention. Là, on est plus juste déjà, et l'action, on est encore un peu plus juste, en sachant que, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que la mémoire est mensongère, hein.
Ouais, elle est
c'est
mensongère.
Une grande menteuse. Hein.
Ok, elle est mensongère, et en même temps, en tout cas, il y a quelque chose qui fait illusion sur le plateau Olivier Dubois. Parce que tout à l'heure, vous parliez des abîmes, et à l'instant, Volmer Cordero disait il faut, pour un tout autre travail, mais il faut switcher. Et il y a quelque chose d'assez impressionnant à voir dans Pour sortir au jour, c'est la manière dont votre regard, d'un seul coup, je sais pas, ouvre quelque chose ou plonge, et vous êtes en 98 ou en 2002 ou en 2012. Enfin, on a vraiment l'impression que vous êtes dans le décor, sur scène, limite avec la voix de la chorégraphe ou du chorégraphe, et avec une immédiateté qui est quasiment violente. Comme si elle vous tombait dessus, quoi.
Ouais. C'est la sensation que j'ai aussi. C'est-à-dire que c'est là où ce sont des... Oui, des métamorphoses immédiates.
Ouais.
Immédiates. Qui, je dirais, basculent évidemment l'espace, le temps, et je dirais même ma corporalité, même mon tout est modifié en une seconde. C'est assez grisant en même temps, parce que c'est quelque chose de, oui, ça me permet de l'espérer produire la sensation juste. Ça me permet de toute façon d'être honnête. Ce qui est sûr, c'est qu'après, il y aura probablement des mensonges, du moins par erreur, par omission, par oubli.
Des mensonges de gestes.
De gestes, par oubli. Pourtant, j'essaie d'être le plus proche et je ne révise rien. J'ai rien révisé. J'essaie d'être très authentique et honnête là-dessus en disant voilà, c'est ce qu'il en reste. Parfois il ne reste rien, parfois il reste beaucoup de choses. Mais de toute façon, rien ou beaucoup de choses, elle est toujours teintée de l'oubli. Et là, c'est vrai que ces métamorphoses immédiates, c'est vraiment c'est le propre de l'artiste performeur, acteur, comédien et danseur. C'est-à-dire qu'on a ces enveloppes modulables, mais qui sont pas que l'enveloppe. C'est-à-dire que c'est comme si les centres se déplacent, les points de force bougent,
vos yeux,
les yeux, voilà, il y a tout. Et puis quelle pièce, de quoi on parlait, dire quels étaient les enjeux à ce moment-là d'une pièce, parce qu'en fait, dans une, par exemple, je peux prendre un extrait d'une pièce, mais je peux prendre dans cette même pièce un autre extrait, et ça sera probablement un autre regard.
Est-ce que vous comprenez qu'il y a quelque chose de grave qui contraste avec l'espèce de personnage que vous appeliez le trublion tout à l'heure, Olivier Dubois, mais qui est comme ça, qui nous amuse aussi, qui fait rentrer, qui fait sortir, qui a cette espèce d'autorité, qui est trublion, c'est très bien, voilà, appelons-le comme ça. Et d'un seul coup, au moment où votre engagement est immédiat dans la pièce que vous reconvoquez, il y a quelque chose de grave. Vous comprenez ce sentiment-là ?
Ouais, bien sûr. Mais je le...
Et j'ai envie de dire, heureusement qu'il est là, ce sentiment.
Bien sûr, c'est essentiel. Sinon, c'est une sorte de patchwork tragico-comico, pas très intéressant, parce qu'il n'y a pas de tragédie, il n'y a pas de comique là-dedans, et que c'est vraiment une plongée dans la... Voilà, une sorte de... Parce que quelque part, on parle de mort. On parle de mort. Vous parlez de souvenir, et comme j'ai dit au départ, j'ai dit, voilà, c'est le souvenir comme dernier rempart contre la mort. Et c'est à la fois, on lutte, mais on va tenter le souvenir qui va dépasser cette chose-là. Et donc, évidemment, il y a une gravité de fait.
Mais c'est la mort des pièces, c'est la mort des
c'est
interprètes,
la mort des pièces,
c'est le vieillissement
c'est la mort de l'interprète, c'est la mort du souvenir, c'est la mort de, c'est aussi ça, c'est l'oubli. C'est, on va lutter contre la mort, c'est-à-dire contre l'oubli. Et il faut se souvenir. Et il faut, même si c'est détourné, même si c'est pas exactement ça, même si ce n'est qu'un interprète sur, eh bien, on va continuer à ce que ça puisse traverser le temps. Et on revient presque à une tradition artistique plus ancienne qui est vraiment la transmission orale aussi. C'est-à-dire qu'on racontait ce qu'il faisait, comment il dansait, il allait à droite, il allait à gauche. Et ceci participait à ça parce que je parle beaucoup.
Un petit peu, parfois vous dites on va refaire la partition, coups d'un Olivier.
Voilà, on va remettre ça et du coup ça s'entend et donc quelque part ça s'enregistre. Et on dit, voilà, il restera peut-être cette partie-là. Et que c'est... Mais bien sûr qu'il y a de la gravité, mais c'est, je pense que voilà, que si on revient sur le livre des morts, il y a de la gravité et pourtant il y a la tentative d'un ailleurs, parce que voilà, on essaie l'autre monde, on essaie de déposer, voilà, qui serait la caisse des dépôts de l'autre monde, on essaie de déposer ces vestiges, on essaie de dire voilà, il va falloir à cet endroit-là, ils seront préservés pour l'éternité. Et c'est ce qu'on est, j'essaie de faire. Et donc, il y a un enjeu qui est grave, mais en revanche, pas triste.
Non, non.
Non.
Sur quoi vous vous branchez à ce moment-là, en vous? Sur quoi à quoi vous vous connectez?
2000 volts. Non.
Ouais. Non. Ça, oui. Ça,
pas.
Va. Ça, c'est très clair.
À quoi je me branche?
je sais pas. En fait, quand je parle de votre œil, c'est juste parce que c'est vraiment une sorte de déclic qui prend quelques millisecondes et où on voit que vous êtes avec nous, hop, ça discute, ça rigole, etc. Et puis d'un seul coup, votre regard, il est ailleurs. Alors, c'est peut-être juste de la concentration.
Non.
Mais j'ai l'impression que c'est un ailleurs. Un poil plus mystique, un poil plus ailleurs, quoi. Donc c'est pour ça que je me dis,
bien sûr, mais c'est retrouver des vibrations, parce que comme je dis, c'est l'imaginaire prend tout de suite la main. Je vois mes partenaires, je vois où je suis, je vois, j'entends, je reconnais les impératifs, les exigences de la pièce. C'est immédiat, ça c'est très 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 très, ça se réenclenche immédiatement, et donc tout le corps et le regard, évidemment, se modifie à dessein. Et oui, c'est toute la grande richesse de ce qu'est
l'interprète. Sur votre vie de danse?
C'est pas si ça me rassure. Ce qui me rassure, c'est que c'est pas le fait. C'est du coup, on ne vient pas voir Olivier Dubois se faisant plaisir. Il y a ce que je défends fortement, c'est la soumission de l'interprète et de l'auteur face à l'œuvre. Et il y a cette soumission-là qui se met en place immédiatement, qui est de l'ordre de « je suis au service ».
Vous êtes même agi parfois, on a l'impression que vous êtes agi par l'œuvre.
C'est soumis au service de l'œuvre. Et je suis rien. Et je pense que c'est la même question, attention, pour l'auteur et pour le chorégraphe, par exemple, ou le metteur en scène, et l'interprète. Ces deux-là sont... soumis à cette loi. Et c'était immédiatement ça qui se met aussi en branle à l'intérieur. C'est cette, cette conscience, ce respect et cette notion très forte de service.
C'est marrant, et en vous entendant dire ça, Olivier Dubois, je pense à la manière dont parfois les spectatrices et les spectateurs se retrouvent dans cette position de soumission, sous votre voix, comme si c'était presque le pendant, quoi. Nous, interprètes, chorégraphes, on est soumis à l'œuvre, alors là, juste le temps d'un spectacle, je vais m'amuser à vous donner des ordres, à faire battre le spectacle à mon rythme, à vous faire rentrer et sortir.
Bon, moi, je vois pas ça comme des ordres, c'est des propositions, mais il faut que ça fonctionne quand même. Ah oui, le ton, il est sec. Non, mais... Après, on est ce qu'on est, mais je pense qu'effectivement, c'est contrebalancé par une sincérité, une vulnérabilité. Vous disiez quelque chose très très juste tout à l'heure. Vous parliez de mu, et c'est peut-être là où j'ai une vision un peu différente de ce qu'on a entendu. C'est que, alors oui, il y a des mus qui à chaque mu déposé, on retrouve cette terrible vulnérabilité, cette terrible fragilité. Il y a rien, il y a plus, la peau est redevenue molle, et pourtant la peau s'est épaissie encore un peu. Et qu'à chaque fois qu'on mue, je vois la peau prendre, le cuir prendre l'épaisseur. Et c'est ce qui se passe là. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on dépose et il y a une... plus je dépose toutes ces mues, plus je suis vulnérable. Et en contre... ce qui contrebalance un peu le ou l'autorité ou le côté un peu... envie de faire comme il veut. Ouais. Mais... en même temps, voilà, il y a cette on a une mise à nu évidente et qui est en plus associée à une donne qui ne peut pas tricher. C'est l'engagement physique est tel que la fatigue brise petit à petit les remparts de comédie, de maîtrise qu'on peut avoir parce que la fatigue entre en jeu et que là, il faut maintenant pouvoir, l'essentiel est de pouvoir encore produire la sensation juste de ces vestiges d'œuvre. Et donc, on conserve cette énergie, on conserve ça, en laissant un peu partir l'autorité sur le public, ou le rythme, parce que si la règle est claire, elle est inscrite, donc j'ai aussi la confiance de dire maintenant vous savez comment ça fonctionne, et je peux moi aller produire tout ce que j'ai à produire et me mettre, je sais pas, le plus vulnérable, du moins le plus authentique. Et donc, plus on avance dans le temps, et plus la fragilité et la préciosité apparaît, qui n'est plus ce costume qui disparaît d'ailleurs au fil du spectacle, qui n'est plus ces apparats disparaissent petit à petit pour qu'un autre trésor puisse jaillir.
Ce qui m'intéresse justement, c'est de jouer avec un espèce d'inconscient collectif, quoi. De malaxer des données, et puis surtout faire parler le corps, quoi. Pour moi, un corps comme ça, livré dans l'espace nu d'un plateau, c'est énorme, vraiment énorme. On m'a dit, oui, Praljoka, vous mettez vraiment toujours une scénographie imposante autour de vos ballets, autour de vos créations. C'est pas par une espèce de mégalomanie de faire des grosses choses. C'est vraiment pour restituer la dimension humaine et fragile, quoi, du corps. Et donc mettre un élément de référence sur scène, qui soit un monument ou une cuve, comme c'est le cas dans Liqueur de chair, là, la scénographie, c'est une énorme cuve, comme une espèce de cale de bateau. Quand on voit le danseur rentrer dans ce lieu, on se dit, on peut très bien se dire, mon Dieu, qu'il est petit. Et ça m'intéresse beaucoup plus que de voir arriver un danseur sur scène et qu'on dise, oh, qu'est-ce qu'il est grand. Ça m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est justement l'inverse, de voir arriver quelqu'un et qu'on se dise oh, qu'est-ce qu'il est petit, et puis progressivement, quand il commence à bouger, à mettre en mouvement tout ce qu'il porte en lui, tout ce qu'il a à dire, qu'on arrive vraiment à une grandeur, mais qui soit d'ordre plus spirituel qu'une image physique comme ça d'un individu.
Il a deux, trois choses à nous dire, Angelin Prège-Lecage, dans cette archive qui ne sont pas sans rapport avec votre dernière création, Olivier Dubois, pour sortir au jour. Et d'abord dire que Angelin Prège-Lecage arrive, alors peut-être à la faveur des enveloppes, ce fut le cas pour moi, mais peut-être que parfois il n'arrive pas du tout. Ça arrive ?
Ah oui, ça arrive.
Un spectacle sans Angelin Prège-Lecage.
Absolument.
Il dit sa recherche de l'humanité, il dit que les décors sont là pour ramener et redire la fragilité des corps, redire la fragilité de nos enveloppes, de nos muscles, de nos peaux. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est un peu de cet ordre-là, dans ce que vous faites. Alors, décor, il n'y en a pas, ou quasiment pas, Olivier Dubois, dans cette pièce. En revanche, de faire en sorte qu'au fur et à mesure, pour poursuivre ce qu'on disait tout à l'heure, on s'approche de la peau, au sens, pas nécessairement au sens premier du terme, mais au sens presque philosophique du terme, ça, il y a.
Oui, j'espère. quoi dire après, si je peux rebondir sur ce que dit Angelin, c'est, je pense, ce sont des aussi chacun a ses écritures moi j'aime beaucoup j'aime aussi beaucoup les grands décors. Je trouve que ça permet des imaginaires et vraiment très proches du théâtre en soi, vraiment de cette idée un peu grecque de théâtre et de construction d'univers, de liberté, de et qui ne sont pas de recomposer des scènes d'aujourd'hui. C'est ce que j'aime de l'autre. D'un autre côté aussi, par exemple, je remarque que dans mon travail, pourtant, les décors sont toujours extrêmement épurés, extrêmement tragédistes. Un rideau de fil, à Ogoé, ce sont 4 boîtes, Révolution, ce sont 15 barres en fer. C'est toujours très simple, mais ça part toujours d'un désir, en revanche, extrêmement ambitieux. À Augury, je voulais une croûte terrestre. Donc, au bout du compte, pour des raisons de manière très, je dirais, très...
Mais c'est des raisons pragmatiques
ou... Bah oui, c'est pragmatique. On vous dit, c'est super, mais tu feras une date, parce qu'on ne peut pas le tourner. Donc voilà, c'est réglé. Donc mais c'est aussi des générations. Je pense qu'on est... C'est intéressant parce que moi je suis d'une génération bien après Angelin en termes de génération de chorégraphes, et je n'ai pas connu l'époque où il y avait énormément de moyens. Donc je n'ai connu que l'époque où nous n'avons que très peu de moyens et il faut faire avec ça. Et pourtant je me suis bagarré en revanche, moi je suis bagarré pour pouvoir réunir un maximum d'interprètes sur un plateau, parce que c'est mon écriture prend toute sa force avec des hommes et des femmes sur un plateau, pas forcément 2 ou 3. Et en revanche, mais par rapport à ça, je ne pouvais pas non plus me permettre un décor.
Il ne pas avoir les deux, 23 interprètes et les...
Et je trouve que... Et c'est très intéressant parce que ça revient toujours à placer l'essence, le pourquoi, d'être au plus juste, et on peut se débarrasser du décor. Demain, en revanche, vous me dites, Olivier, voilà, tu peux construire tout ce que tu veux, probablement que je construirai un très grand décor. Voilà.
C'est bien qu'on parle d'espace, Olivier Dubois, parce que l'espace dans lequel vous dansez, pour nous, toutes ces pièces-là, ces morceaux de pièces, il est assez réduit. Nous sommes quasiment tout autour, pas exactement en cercle, mais quasiment tout autour. Et alors que vous convoquez la Cour des Papes à Avignon, c'est un tout petit truc que plateau noir de, je sais pas, peut-être 4 mètres de large, enfin.
5,50 sur 5,50.
5,50 sur 5,50, ça fait pas beaucoup.
Ah non, c'est tout petit.
On est d'accord. Oui. Alors, comment vous faites, on parlait de momie, mais il y a peut-être un peu quelque chose de cet ordre-là, c'est que vous, à la fois vos ailes sont complètement déployées et en même temps, on sent bien que c'est quand même une contrainte et qu'il a fallu jouer avec cette contrainte d'espace.
Elle est volontaire, hein. On a rarement des salons qui font 250 mètres carrés.
C'est très rare.
C'est rare. On a plutôt des salons, et encore là, c'est un peu grand, 5,50 sur 5,50, 25 mètres carrés pour un truc, bon, juste pour un salon. Donc, quelque part, je trouvais qu'il fallait cette dimension humaine, et à la fois, c'est-à-dire de garder la dimension humaine et de garder la dimension d'arène, qui est là, et plutôt sur un grand format. Donc, on a cette arène, on a ce cirque, et on a aussi la proximité d'un salon où on a des gens autour de vous, certains sur le canapé, d'autres sur le sol, d'autres sur des poufs, sur des chaises, et on est ensemble et on passe ce moment-là. Donc c'est très proche, et pourtant, on a une capacité de produire l'idée que ça pourrait être très grand. Mais c'est toute la magie du théâtre. Encore une fois, je peux vous faire croire que cet espace est gigantesque. Alors après, je suis seul, donc je sature pas l'espace non plus. La même chose à 10, on sera
vraiment serré. D'accord, mais de là à la Cour des Papes en pleine nuit,
c'est votre imaginaire que je mobilise.
On est d'accord. Le vôtre et le nôtre.
Voilà, parce que c'est, vous savez, vous rentrez dans ces, ça peut être ces temples, et qui sont à la hauteur, à la grandeur du cosmos. Et pourtant, c'est une boîte.
On a parlé de rituels, on a peu parlé d'ivresse. Je me suis demandé si on avait une ivresse due au champagne, mais une ivresse due à la convocation rapide et immédiate de toutes ces peaux en vous. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ivresse ou de la... La transe, c'est un grand mot, mais de cet ordre-là?
Je sais pas. Non, je pense pas. Je pense que c'est du... On perd pied. Mais...
Vous courez quand même.
Ça chute. Ça court, oui, mais ça... On s'enfonce. Enfin, moi, j'ai l'impression de m'enfoncer. Voilà, je me dépèse comme ça. Je perds ses peaux. Voilà, et je m'enfonce et... Et quelque part, ce que j'espère, parce que c'est, par exemple, c'est toute la fin et tout ça, ce que j'espère, c'est, moi, ce que je veux produire, c'est une dévoration. J'espère qu'on vienne à la fin me dévorer parce que c'est, il ne reste plus rien de moi et en revanche, c'est là où le précieux se trouve. Voilà, quand on aura brûlé tout ce corps, il restera une chose, l'or, qui ne fondra pas, voilà, et c'est ça qu'il faut aller dévorer. Et en même temps, avec la plus grande déclaration d'amour, je crois, c'est dévorer l'être aimé. C'est la dernière déclaration d'amour. Je pense que c'est à mon sens la plus belle, c'est de le manger, de le dévorer vraiment. Et c'est ça qui est proposé, c'est une sorte d'offrande au bout du compte. Voilà, dévorez-moi et parce qu'en fait c'est peut-être un des endroits les plus aboutis de la transmission de la mémoire, de survivre. C'est être dévoré par l'autre.
Est-ce que ça vous fait complètement sursauter si on pense au Christ? Parce que...
Bon, moi, j'y ai pas pensé.
Prenez mon corps. Vous prononcez ces mots, hein. En sortant, observez vos mains, vos crânes. Il y a un peu de mon sang.
Répandu.
Oui, et là, ça, vous alors, dites dévorer,
ça peut être
je sais pas,
critique, bon. Mais ça peut être aussi quelque chose de très... oui, alors, parce qu'on est judéo-chrétien, parce qu'on fonctionne là-dessus, de l'autre, c'est extrêmement tribal. Hein. C'est extrêmement tribal, c'est vraiment cet ancien monde hein, qui dévorait l'autre, qui, mais pas, pas parce qu'on le chassait, mais voilà, parce qu'on allait prendre la... La sève, prendre l'autre, prendre l'âme, le souvenir, je dirais défier le temps, défier la mort, et que c'est plutôt. Alors oui, ça aussi, ça peut être christique, mais que je trouve que c'est peut-être plus dans je vois ce que parce que oui, si je vous parle d'abandon, et ben oui, voilà, il est mort pour eux. Mais
je dis ça, j'ai juste ce que j'ai pensé.
C'est pas faux, mais je sais pas si moi je l'ai pas porté comme ça à aucun moment. De l'autre, oui, je répands cette sueur partout.
Il y a du sacrifice.
Il y a du sacrifice.
On voit votre peau au fur et à mesure parce que plus vous allez, plus vous êtes dénudé et comme vous économisez pas du tout dans la danse, parfois, ben, il y a des jetés par terre et on voit que votre peau, elle prend des coups, quoi. Elle prend le sol, elle devient rouge. Donc voilà, je me suis dit, une façon d'abîmer le corps quand même jusqu'au bout, potentiellement.
Peut-être, mais est-ce que c'est pas avant le Christ?
Ah si, probablement.
On avait ça partout. L'offrande. Là, on est en Égypte ancienne. On est 2000, 3000 ans avant. On a les offrandes. On a la dévoration. On a le sang. On a toutes ces questions. Tout ça existait déjà.
Et quelle place la confession? Parce qu'il y a aussi des petits moments de récit. Ou bien vous racontez des épisodes. Ou bien vous faites raconter par quelqu'un du public des épisodes. Qui sont des épisodes... comment on pourrait dire, pas toujours heureux, en tout cas dans ceux qui ont été racontés hier.
Ouais, ils sont pas, ça dépend, elles sont vraiment, les confessions sont très différentes, mais ça fait partie encore une fois, comme on a pu entendre le texte tout à l'heure de ces confessions-là, et de dire qu'il faut aller à confesse, alors là, ça peut être christique, mais pourtant, ce texte était
c'est
bien
le livre
avant,
des morts.
Et qu'il faut aller, essayer de purifier, essayer de se délester encore pour que, alors l'âme ou je ne sais pas, pour l'élévation, il faut se délester de ces choses-là, il faut se délester de ces jugements-là, il faut se délester de ces erreurs, il faut se délester de ces tromperies, il faut se délester de ces désirs, de ces envies, vraiment pour une sorte de tenter une purification comme ça, mais elle passe encore une fois par des confessions, donc c'est très intime, et ça ne, évidemment, des confessions qui, je l'espère, ne me concernent pas que moi, c'est qu'elles ont un impact beaucoup plus large chez chacun.
Sur les jugements portés à votre corps, par exemple. Et où, alors là, on sort un tout petit peu de l'intime. En Avignon, vous convoquez 3 puis 6 personnes. Vous leur distribuez des mots qui sont des mots d'injures, qui ont été prononcés lors d'une représentation. Vous leur demandez de les proférer en hurlant devant vous et ensuite de mettre en boule leur programme ou leur feuille et de les lancer sur votre corps qui, à ce moment-là, est plutôt dénudé. Purification encore ? Revivre cette scène-là.
Glorification. Couvrez-moi d'or ou couvrez-moi de merde, c'est la même chose.
C'est pareil. Parlez de moi, quoi. Ou parlez-moi.
Absolument. Mais surtout, couvrez-moi. Couvrez-moi, les deux me préserveront. Et les deux m'ont donné une armure. Une parce qu'elle brille et qu'elle déblouit, et l'autre parce qu'elle sent très fort et qu'elle donne envie de vomir.
Et les deux vous fortifient ?
Bien sûr. Les deux ne sont pas... Les deux sont extrêmement... Il faut être très vigilant. Voilà, ça peut être de petits charmes très mauvais. C'est-à-dire qu'on pourrait y croire. On pourrait croire qu'on est couvert d'or ou couvert de merde. Mais en fait, non, ça, c'est pas ça.
Mais alors,
il y a un équilibre de tout ça. Il y a un équilibre dans ces choses-là. Et qu'on soit appelé comme un dieu vivant ou qu'on soit appelé comme un morse ou un porc, c'est la même chose. Je préfère me dire que tout ça participe à
être appelé.
Et puis à ce que je suis, peut-être. Et je trouve que ça, voilà, il y a un équilibre dans l'appellation, il y a un équilibre dans ce qu'on y voit. Et enfin, moi, ça me permet de rester à la fois très terre à terre, mais d'avoir la tête encore une fois dans le cosmos. C'est-à-dire que ça me permet ce voyage-là. Ouais. Parce que si on me dit que je ne suis qu'un dieu vivant et que je ne suis que couvert d'or, oulala, je vais probablement m'égarer dans l'espace. Et si on me dit que je ne suis qu'une merde, alors je vais finir enseveli. Et ben, d'avoir les deux me permet de tenir droit et de voir haut. Par les temps qui courent, Marie Richeux avec moi.
Thank you. dans le travail de théâtre et de danse, l'interprète en fait est vraiment un lieu de passage pour quelque chose d'autre que lui-même. Et plus il laisse cette chose exister, moins il fait barrage avec lui-même, et plus ça existe en fait. Ça se sent tout de suite, ça, quand quelqu'un entre en scène, si c'est lui et son moi qui arrivent pour se montrer, un tant soit peu, même avec beaucoup d'intelligence parfois, ou bien s'il y a quelque chose d'autre qui est interprété en fait. C'est un interprète, donc ça passe par lui, c'est grâce à lui que les choses adviennent, donc il a une forte responsabilité et c'est ça un bel artiste.
C'est la voix de Maggie Marin, après celle de Klaus Nomi, au micro de Nejma Bouakra dans les entretiens à voix nue qu'elle avait donné à France Culture. Un interprète, c'est quelqu'un par qui ça passe. C'est pas quelqu'un qui vient se montrer. Et moi, j'ai l'impression, Olivier Dubois, qu'il y a comme une sorte d'équation plus complexe dans votre dernier spectacle. Que c'est, vous êtes à la fois le corps par qui tout passe, mais vous n'êtes pas non plus dénué du désir de vous montrer. Et vous le disiez tout à l'heure avec la question de la dévoration, j'ai pas l'impression qu'il y a un effacement de ce que vous êtes dans ce spectacle-là.
C'est impossible. C'est une... D'ailleurs, Maggie ne parle pas d'effacement, ni de disparition. On ne peut d'ailleurs disparaître qu'après apparaître. Je crois que là...
Il faut apparaître.
On parle de spectacle vivant, on parle de quelqu'un. On ne parle pas d'un corps posé, c'est quelqu'un qui est interprète, qui va muter. Mais il doit être présent, il doit avoir conscience. Et je pense qu'il faut... C'est là où j'espère avoir, ne pas être... Il n'y a pas de démonstration, aucune, mais il y a une monstration. On est là et on doit exister, être sur ce plateau à ce moment-là, en son âme et conscience, et tenter la mutation, la métamorphose, tenter l'ailleurs. Mais ça ne passe pas par une sorte de grisâtrie qui dirait il faut être tout en effacement ou tout pour disparaître, faut déjà être là. Et après, on peut là. Après, il y a des on peut entrer en discrétion. On peut rentrer en transparence. On peut entrer dans ces états-là. C'est totalement possible. Et selon, par exemple, les enveloppes, il y a ces états-là. Il y a ces choses qui ne sont pas. Par exemple, hier, j'ai dansé une pièce de la danse des éventails d'Andy de Groot, et il y a complètement cette disparition-là, complètement ce... Voilà, et de l'autre... Et puis, il y a des natures, aussi respecter la nature de l'interprète. C'est trop facile de dire qu'il ne faut pas être en démonstration, il ne faut pas être en monstration, il faut pas... Mais ça, c'est un peu à la française, grisâtrie des années 2000, où c'est le concept store ambulant, où on doit être une idée. Mais je ne suis pas une idée, je suis un homme, j'ai des humeurs, j'ai un corps, j'ai une énergie, j'ai une vision, j'ai une pensée. J'ai une joie, j'ai une peine, j'ai une rage. Et tout ça, je le mets à dessein. Mais ce n'est composé que ce dont je suis fait. Et ça ne peut pas complètement. Parce que si je retire ça, alors je fais rien. Je veux et c'est parce que c'est... Oui, c'est sur la... Ça n'existe que sur ma constitution. Et ma constitution, cet ADN, je vais le modifier, le muter sans cesse. Mais je n'invente pas de nouvelles cellules. J'invente pas d'autres choses et de où on aime les gens oubliés, où on aime le plateau oublié, où on aime l'idée et plus que l'homme qui porte une idée.
Je pense à la chanson de Céline Dion que vous avez interprétée hier parce qu'elle fait partie de ces chorégraphies qui sont convoquées à Olivier Dubois. Ouais, mais quand même, d'une part, c'est un moment où vous chantez.
Ouais.
Et d'autre part, le titre dont j'ai demandé une brève traduction dit « Je me rends ». Et je me suis dit que c'était pas complètement anodin dans l'écriture du spectacle d'hier, j'imagine qu'elle bouge tous les soirs, qu'il y ait cette idée-là, qui est je me rends, qui va même au-delà de je m'offre. Je me rends, mais au sens, j'ai encore de l'énergie là, mais je me dépense totalement.
Hey. Why not? Non, je. Voilà, ça fait partie du patrimoine qu'on porte et. avec quel qu'il soit le respect qu'il se doit, mais...
Moi, je respecte énormément Céline Dion.
Moi aussi. Non, vraiment. Et après, voilà, c'est « I surrender », c'est « I surrender », mais je sais pas si c'est...
Faut pas l'entendre comme un truc que vous aviez à dire
non,
aussi.
Non, non. Non, ça fait vraiment partie de ce patrimoine. Mais il n'y a pas de, du coup, de, après, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que j'ai envie de vous dire, si je suis très honnête avec moi-même, je vous dis, mais non. Parce que j'ai fait cette pièce-là. Ça s'arrête là. J'ai fait ça. De l'autre, je ne devrais pas vous le dire.
Autre
parce
écho.
Que c'est, parce que c'est, selon, vous savez, ce sont les alchimies des soirées, des choses qui sortent et dans ce qu'elles disent, qui à un moment font que, on y perçoit, chacun va percevoir, avoir sa propre sensation de ce qu'il se dit. Et ça, ça appartient, et c'est ça la vérité. La seule loi, c'est celle-ci, c'est celle qui est multiple. Et ça, il faut le préserver. Donc, je n'ai pas le droit de vous dire non, ce n'est pas ça.
Ben, moi, j'ai entendu, je me rends, c'était ça.
Mais c'était peut-être ça. Et parce qu'il y a aussi, voilà, il y a une structure dans la pièce qui dit, qui amène à un endroit, mais à l'intérieur de ça, il y a des sensations qui sont convoquées chez chacun, très intimes, et qui font loi. Et du coup, ça, j'ai pas prise, absolument pas prise.
C'est la liberté, le libre arbitre des spectatrices et des spectateurs. Ouais. Mais justement, alors, à la fin, pourquoi vous allez les chercher?
La dévoration. Normal, ça dépend, c'est très différent des soirs. Parfois, j'ai pas besoin du tout. Et il y a cette, voilà, cette bête sauvage qu'on va essayer d'attraper, quoi. Avant qu'elle reparte au fond de sa grotte.
Pour sortir au jour, c'est le titre de ce spectacle. C'est joué donc en ce moment au 104 dans le festival Les Singuliers. Ce sera ensuite en tournée. On va mettre toutes les dates de ce spectacle et des autres sur notre site internet parce que le vôtre va arriver bientôt en habit de lumière.
Inch'Allah.
Ouais. 2019, il y aura un site pour votre compagnie. Je vous l'annonce, Olivier Dubois. Merci beaucoup.
Merci.
Puisque je parle de 2019, la prochaine création de votre compagnie sera présentée le 29 mars au 104 à Paris. Elle s'appelle Tropisme. Au son ce soir, c'était Jacques Azuber, à la réalisation Lise-Marie Barré. L'émission se réécoute sur franceculture.fr ou en s'abonnant au podcast Par les temps qui courent. Un très grand merci à Louque Vauvillier, Jeanne Adéos, Romain Debec de Lièvre, Marianne Chasseur. Ils m'aident à penser et danser cette émission tous les soirs. C'est super. Dans un instant, journal. Très belle soirée sur France Culture. À demain. He could